Oui, bonjour à l'équipe de Daniel. Bonjour Daniel, voilà. Je voulais lancer un petit message enfin chaleureux à propos d'un musicien que j'ai croisé un dimanche en fin d'après-midi, un dimanche un peu glauque, dans un couloir de métro entre Nation et Mairie de Montreuil, et qui se tient là et qui essaye de tenir debout encore tant qu'il peut avec son violon et qui joue de très belles choses. Et ce serait bien que les gens qui empruntent cette station entre Nation et Mairie de Montreuil prennent quelques secondes, quelques minutes pour l'écouter et l'aident en mettant une petite obole, hein, mais ne serait-ce que la chaleur de l'écoute, c'est ça qui compte. Il s'appelle Bruno et j'aimerais qu'on lui tende la main. Voilà.
Bonjour, Evéda de Kremlin-Bicêtre. Je réagis au reportage sur Nestlé. Bon, j'étais tout à fait d'accord avec les propos du délégué CGT, mais je vois pas pourquoi Monsieur Mermet fait ce genre de réflexion ironique sur ceux qui veulent faire la révolution et qui veulent que toujours dans l'entreprise il y ait une lutte incessante. Mais c'est vrai à la fois qu'il y a une lutte incessante et à la fois que les gens sont attachés à leur travail et leur entreprise. C'est pas contradictoire, c'est la vie qui est comme ça.
J'ai entendu l'ouvrier qui était fier d'être Nestlé française. C'est sûr qu'à côté de ça, l'homme de Cro-Magnon, c'est le paradis perdu. Je veux bien que le travail rend libre, mais quand même, transformer une nécessité calamiteuse en épanouissement d'esprit, ça fait mal. Quant aux tables rondes, elles me semblent plutôt clintoniennes, c'est-à-dire un peu aval. Les amours ancillaires avec le syndicat comme entremetteur permettent aux larbins d'être fiers de partager le temps du mépris, la couche du maître. Allez, salut.
Oui, bonjour Daniel Mermet, c'est Patrick à Angers. Vous parliez aujourd'hui dans votre émission de mardi, donc vous disiez que l'événement le plus marquant du XXe siècle, ça a été la disparition du monde paysan. C'est sans doute vrai, mais il faut pas oublier que cette disparition a eu pour conséquence la guerre de 14. Parce que la guerre de 14, c'était l'élimination physique de tous ces gens qui sont trouvés en trop. Alors, quand on constate le raz-de-marée qui tend à faire disparaître le monde du travail, le monde des ouvriers, on peut se demander par quoi ça va se solder. Voilà. Continuez, merci.
Bonjour, merci beaucoup pour cette émission que j'ai entendue, pas par hasard, mais parce que j'avais le temps. Les dernières minutes m'ont rempli de bonheur, mais j'aimerais savoir le nom du chanteur occitan que vous avez passé à la fin de l'émission aujourd'hui, mardi 5. C'était un grand bonheur.
Eh ben, c'est Manu Théron, le chanteur occitan qu'on a passé hier en fin d'émission, et son disque s'appelle Cor de la Plana. Et puis, il y a un autre morceau qu'on a passé hier, qui avait été choisi par Yann Chouquet, et un groupe qui s'appelle Dégâts des eaux en un seul mot. Et si vous êtes très sage, et si on y arrive, et si on a le temps, on le repassera aujourd'hui, parce qu'effectivement, il est très bon. Bonjour, amis auditeurs, c'était les messages du répondeur de là-bas, si j'y suis, toujours copié, jamais égalé, au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, on continue, on persiste, on reste encore avec Olivia Gesbert à Saint-Menet, près de Marseille, avec ceux qui s'en vont, avec ceux qui sont lourdés, comme on dit, lourdes, les 424, c'est pas drôle du tout, employés, de salariés de Nestlé, qui vont se retrouver au tapis dans pas longtemps. Une fermeture, donc, de plus, un plan social de plus, et histoire de pas s'habituer, de lutter contre cette banalité qui veut que, bof, maintenant, voilà, c'est tellement normal, on a voulu revivre avec eux ces moments où on ferme. On l'a vu hier, ce que c'est l'histoire, l'attachement, l'attachement total à cette entreprise, comme ailleurs, Peugeot ou Michelin ou dans d'autres endroits, et cet arrachement imposé par qui au juste? C'est ce qu'on va essayer de savoir.
Alors j'étais un bébé Nestlé puisque mon père était un salarié Nestlé. Je suis devenu un exploité Nestlé et aujourd'hui je suis un licencié de chez Nestlé.
Double jeu.
Henri Nestlé a fait certaines choses à l'époque. Et il avait un esprit, je dirais, qui nous plaisait. Maintenant, Nestlé, le nom Nestlé, pour nous, est synonyme d'empire, est synonyme de couvache, de coutournu, est synonyme de finance.
Double jeu.
Ben oui, 26 ans de boulot, de remerciements, ben, une ferme ici, ils vont ouvrir ailleurs. Ça, c'est le remerciement de Nestlé France.
Je t'avais prévenu, Maurice.
On n'est plus rentable et on nous fout à la poubelle, tout simplement. Voilà.
C'est vrai. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant.
Au bon chocolat au lait suisse.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Olivia Gesbert, c'est fort en chocolat.
Flight number 2, arriving from New York.
Quand on nous a annoncé la fermeture, c'était un gros choc par rapport à ça, quoi, par rapport au fait que j'envisageais pas d'aller travailler ailleurs. Ça, c'est sûr.
Moi, j'ai passé ma vie ici. Hein. Je suis rentrée à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans de boîte, j'ai 49 ans, l'année prochaine, j'aurai 50 ans. Je me retrouve au chômage et j'ai perdu mon métier. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mes années d'annuité. Je me retrouve seule avec une gamine qui a 12 ans. Je vais faire quoi?
Je suis arrivé parce que bon, il y avait mon père déjà qui travaillait là. Et comme je faisais beaucoup de déplacements, je venais me marier. Je cherchais quelque chose de stable. Je vois que c'est pas le cas.
Moi, ce qui me révolte, c'est ça. C'est le fait de dire, au nom de la liberté d'entreprendre, je mets à la rue des salariés et je vais faire gagner à certaines catégories de personnes, c'est-à-dire les actionnaires, je vais faire gagner un gros plus d'argent. Là, il faudra un jour que quelqu'un ait le courage de dire, non, ça ne peut plus le faire.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Double jeu, signé Nestlé.
Le développement durable est facile à définir. Si votre arrière-grand-père, votre grand-père et vos enfants continuent à être des consommateurs fidèles de Nestlé, nous avons travaillé d'une façon durable. Et ceci est le cas pour plus de 5 milliards d'êtres humains dans le monde. Ainsi s'exprimait Peter Brabeck lors de l'Open Forum de Davos en 2003. Voilà, voilà où nous sommes. 5 milliards d'êtres humains dans le monde consomment Nestlé, consomment les produits Nestlé. Et ces produits, certains de ces produits sont fabriqués faut-il parler au passé? Il y a toutes les chances du monde pour qu'il faille effectivement parler au passé dans cette usine de Saint-Menay, dans la vallée de l'Uvaune, non loin de Marseille. Et une usine qui, depuis pas mal d'années déjà, parfume, selon que le vent est dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, eh bien, ça sent soit le café, soit le chocolat. Les ouvriers, ouvrières, salariés et salariés, eux, de cette usine, hier, nous ont raconté leur vie, leur passé, leur attachement, je le disais, et puis ce détachement, comment aujourd'hui ils se retrouvent au tapis pour la plupart. On va aujourd'hui continuer avec eux à comprendre comment ces choses-là se vivent, comment ces choses-là sont redoutées, sont la frayeur, la misère et la grand-peur de ce début de millénaire dans nos cultures, nous contrôle, nous effraie, nous dirige comme un fantôme terrorisant. Et on rencontrera au cours de ce parcours avec Olivia, des gens qui y croient, des gens qui n'y croient pas, des gens qui font semblant d'y croire, et rencontrera encore quand même, chemin faisant, contre les voraces, quelques coriaces.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Ça fait pas mal d'hier qu'on attendait demain. Ça fait pas mal de temps quand on regarde en arrière. Qui nous promettent la lune, les experts, les malins, tous les fins, les finaux qui dirigent la terre. La mondialisation, la globalisation, là qu'on n'entend plus que ça, jusque dans notre village. Ça devait faire débarquer le bonheur dans nos maisons, après juste quelques sursauts, quelques réglages. Eh ben on va rien venir avec Marcel et Roger, l'un qui est des cadres et l'autre petit paysan moyen, qu'on a restructuré, fusionné, redéployé, et qui se retrouvent égaux maintenant qu'ils sont plus rien. Marcel dit que sûrement là on est mal placé, qu'ailleurs il y a du soleil, des gens heureux qui rient. Mais oui, il a vu ça l'autre jour à la télé, mais pourquoi enfermer l'école et l'épicerie? Il dit que c'est dérisoire ce qui arrive dans un patelin, Marcel, qu'il faut tout voir à l'échelle planétaire, et qu'il y a des pays où les exclus vont bien, où les mecs sous-payés, ils ont la pêche d'enfer, où le quart-monde y bord la vie à belles dents. Comment? Il a plus de dents, c'est ce que je pensais, c'est clair. Marcel, il pète les plombs, puis qu'il a plus ses champs, et qu'on a transformé ses vaches en hamburgers. Roger, il dit plus rien, ça fait 10 ans qu'il chôme, qu'il suit des séminaires, des formations, des stages. À poursuivre du vent, il ressemble à un fantôme, à poney chez Picrate, il fait 10 fois son âge. C'est que du pipeau, tout ça, montrez-moi l'embellie. Les rares ont du travail doivent se tuer au boulot. D'accord, ils ont des portables web qui les relient, mais pourquoi ils ont fermé la poste et le bistrot? L'autre jour, j'entendais un monsieur de mon cul, ou de mes couilles qui me gratte, ou de n'importe quoi, dire dans mon transistor, arrogant, convaincu, sa mondialisation, ça crée des emplois. Ouais, putain, j'ai vu rouge, j'aurais voulu la voir, là juste en face de moi, pour lui demander où, pour lui demander quand, et répondre au connard. T'as vu qu'on embauchait, en tout cas pas chez nous. Peut-être qu'il parlait de ses enfants qu'on enchaîne, là-bas dans le tiers-monde, dans ces pays si tristes, qui bossent 12 heures par jour, pour $1 à peine, tandis que leurs frangines se vendent à nos touristes. Là leur projet retour 2 siècles en arrière. Et pas qu'au Bangladesh tu parles jusqu'ici. Chacun pour soi, pour tous de minables salaires. Mais pourquoi ont fermé l'usine et la Syrie? Et comme ils parlent fort dans la rue, dans le journal, on finirait par croire au fond qu'ils ont raison. Que les pauvres deviennent plus pauvres, déjà ça devient banal. Y'a pas un autre chemin, je pose la question. Verrez bientôt, ça sera l'Amérique par là. D'un côté des ghettos bien crades et puis bien gros. Quelques prisons tout près pour ceux qui acceptent pas. Puis un tout petit quartier de riches gardé par des Rambo. L'or me dit plus que demain on va raser gratis. On nous l'a déjà fait, le coup de l'avenir radieux. Et des lendemains qui chantent au bon vieux temps jadis. V'là qu'aujourd'hui ça s'annonce pas mieux. Non, je ne déconne pas, regardez rien que chez nous. Dans ce petit bled qui était blanc, suisse, quoi, normal. Tout vient tellement privé qu'on sera privé de tout. La preuve, ils vont fermer la gare et l'hôpital. Ça fait pas mal d'hier qu'on attendait demain.
Alors là, on est entré dans le fameux univers Nestlé, hein, c'est ça?
Oui, on est en plein dedans, là. Donc, là, on est situé du côté, côté chocolat, parce que c'est une usine... qui est vraiment particulière, c'est que il y a deux identités. Il y a côté chocolat et côté café. Bon, vous voyez quand même, il y a quand même le respect, quand même, je veux dire, de la verdure. On se rappelle un petit peu la Suisse sans le lac Léman, puisque vous savez que le siège social de Nestlé France, Nestlé International, est en Suisse.
C'est quand même grand, hein, tout ce domaine.
Ah oui, c'est très grand. Ça fait pratiquement plus de 25 hectares, donc c'est vrai que c'est une très grande surface dans la ville de Marseille.
On peut plus visiter en fait l'intérieur de l'usine. Hein.
Non, depuis 4 ans, Nestlé refuse à toute personne de visiter l'usine. Alors que pendant depuis les années 50, pratiquement toutes les semaines, il se faisait la visite, je veux dire, des enfants, je veux dire, de la région PACA.
En fait, là, il y a quand même une sacrée odeur aussi. Hein.
Bah, vous savez, c'est un peu au gré des vents. Aujourd'hui, nous avons Mistral, donc nous sentons l'odeur du café et du chocolat du côté d'Aubagne. Demain, quand ce sera le Vendès, ça sera tout sur Marseille. C'est au gré des vents.
Mais dites-moi, vous qui avez le nez plus fin que moi, là, c'est bien du chocolat, surtout.
Oui, là, vous sentez bien le chocolat. Donc, nous allons entrer dans l'antre du comité d'établissement. Alors, c'est vrai que là, bon, vous arrivez avec un petit peu de désordre. Bon, il y a plusieurs tracts, il y a des lettres, enfin tout ce qu'il y a, les affiches pour la lutte.
Qu'est-ce qui est écrit sur le t-shirt?
Alors, qu'est-ce qui est écrit sur le t-shirt? C'est Nestlé, c'est fort en licenciement. Et je crois qu'on va mettre aussi une petite pancarte supplémentaire. Nestlé tue l'emploi à Marseille, 800 familles sacrifiées.
C'était le slogan de Nestlé, Nestlé fort en café, non?
Oui, ouais, c'était le grand slogan je veux dire, de Nestlé, c'est fort en chocolat ou fort en Nescafé.
Voilà, 800 familles sacrifiées, les 424 licenciés, plus toutes les familles des entreprises adjacentes à une entreprise comme celle-là. Vous avez vu la fierté hein, de présenter cette belle usine dans ce cadre de 25 hectares, superbe. Et puis voilà, dans le comité d'établissement aujourd'hui, c'est des tracts, c'est cette lutte dont l'issue semble un petit peu douteuse. Maintenant, sinon certaines. On disait la bourse ou la vie, autrefois la bourse ou la vie. On a choisi, le choix a été fait. Quand je dis on a choisi, qui a choisi, en tous les cas, le choix semble fait, c'est évidemment la bourse, et puis la vie cavale derrière, comme elle peut, voilà, la locomotive, maintenant le moteur, ce qui nous dirige, notre horizon, notre orient. C'est la bourse. La vie, la voilà.
Bonjour.
Ça, c'est deux camarades. Sophie, Raphaël et Serge Carigny.
Bonjour.
Moi, je suis Raphaël. Alors, je suis né au Vanuatu. Depuis que j'étais gamin, j'étais chez les missionnaires. J'ai faisais la cueillette des cacaos et puis du café. Comme par hasard, mon parcours a fait que j'ai atterri en France pour se retrouver dans une usine de Nestlé à faire des tablettes de chocolat et du café. C'est vraiment, c'est peut-être mon destin que je dois finir comme ça, mon parcours professionnel. Mais quelque part, j'ai quand même des travers.
Qu'est-ce qui vous a amené là? Comment ça s'est passé, le premier entretien d'embauche
ou... L'entretien d'embauche, il n'y en a pas eu. Parce que j'étais embauché par rapport à ma morphologie.
Oui. Et elle est mastoc, hein?
Oui. Et comme ancien joueur de rugby, mon travail ici, c'était de décharger des sacs de café et de cacao. Je faisais 100 tonnes par jour, manuel, hein, faut le porter sur le dos, et faire des palettes de 25. Et j'ai fait pendant 8 ans, en faisant presque 100 tonnes tous les jours. Après maintenant 22 ans en France, et pour moi, c'est, je peux dire, un échec. Il faut que je recommence à zéro et avoir le même esprit de guerrier pour pouvoir survivre à ma petite famille, reconstruire, repartir à zéro. Il faut toujours garder le sourire en même temps. C'est très difficile. Et je passe mon temps à remonter le moral à mes camarades, les copains de travail, les salariés. Finalement, c'est dans les moments les plus douloureux qu'on commence à connaître son collègue de travail ou les gens de son entourage. Mais avant, on faisait pas attention. Parce qu'on était conditionné dans un monde qui est comme ça. Moi, je suis pas habitué. C'est cruel. Et ma famille qui sont là-bas, ils pensent que moi, à travers les émissions télévisées, que j'ai réussi ma vie. Que j'ai une belle villa, que j'ai une piscine et que... Ils pensent que j'ai réussi ma vie, mais c'est, alors que c'est tout à fait le contraire. Je passe mon temps à me justifier, à dire non, ne croyez pas ça, que j'ai la BM, que j'ai le jardin, que j'ai la petite villa. Non, non, pas du tout, je suis une vie comme tout le monde, avec mon salaire, par rapport à mon coefficient, une vie modeste, une vie modeste.
En fait, la jungle, elle est ici. Quoi.
Oui, la jungle, voilà, c'est ça, ouais, vous l'avez bien trouvé, c'est ça, c'est la jungle, elle est ici. Alors des fois maintenant je me demande si les plus heureux c'est peut-être pas les gens qui sont là-bas enfin le fond de Vanuatu. Je pense que c'est les plus heureux. C'est là que je me rends compte qu'il y a la plus de valeur. Et des fois j'ai des good blues parce que je repense à mon enfance, à mes parents, à mes grands-parents, comment ils ont vécu. Il n'y avait pas besoin d'une image que j'ai vue moi. Et tout ça c'est pas une vie saine pour moi maintenant. Voilà. C'est une grosse vague qui vient, qui va atterrir sur la plage et puis qui repart et puis qui va laisser des poissons morts, comme il a étouffé, j'ai une vie comme ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Et ils avancent, ils laissent du monde sur la route, comme ça, il n'y a pas de place pour tout le monde. On préfère, vous le savez, vous avez sûrement entendu, hein, on préfère faire les productions ailleurs, dans un autre peuple aussi qui souffre aussi, qui vont souffrir. Et puis nous, on souffre, puis après, il faut qu'on apprend à remonter hein, la pente. Hein. Dans les vies des familles, il y a des couples qui vont exploser, il y a des enfants peut-être qui vont être... pas dire comment dire ça, mais des enfants qui vont peut-être avoir un autre regard, peut-être pitié pour leur papa ou pour leur maman qui a perdu l'emploi.
Ça, c'est un truc que vous lisez dans le regard de vos enfants?
Oui, 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 oui. Mais ils les comprennent. Hein. C'est pas dramatique, ça. Le plus dramatique, peut-être pour eux, que peut-être je vais être malheureux. Je pourrais pas... leur donner c'est qu'ils veulent peut-être, peut-être je me culpabilise. Parce que c'est comme ça au pays. C'est celui qui va chercher la nourriture dans le village, et c'est l'homme qui va à la pêche, et l'homme qui va à la chasse, qui ramène la nourriture. Mais maintenant, si je fais pas ce rôle-là, peut-être qu'ils vont me regarder autrement, mes enfants. Je dis, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes maintenant à la maison, que j'aurai pas un boulot. Je vais pas faire semblant de me lever et partir faire semblant de faire croire que je veux travailler. Il va falloir assumer ça, il va falloir être honnête avec eux, leur dire, bon, ben, c'est rien, c'est pas grave, il faut continuer. Je fonctionne comme ça, moi. Je peux pas, j'ai pas le droit, moi, de tomber à plat. J'ai pas le droit.
C'est quoi le tatouage?
Ah ben là, vous voyez, c'est une anecdote, c'est encore un lion. Et déjà, je l'ai fait quand j'étais au Vanuatu, c'est un lion. Et l'anecdote, c'est que le bar de lion de Nestlé, et il est là aussi, sur mon bras.
Donc oui. Vous avez Nestlé gravé dans la peau, quoi.
Voilà.
Mais plus dans le cœur.
Ben non, il faut que je accepte de tourner la page, c'est fini notre histoire d'amour.
Nestlé, c'est fort au chocolat.
Nous étions 1200 salariés en 1980, nous étions 700 salariés en 1990 et nous ne sommes plus que 424 salariés depuis 2 ans.
Je suppose que la production a dû baisser en conséquence.
Absolument pas, les volumes de production ont été quasiment doublés depuis cette période-là. Nestlé a pu doubler ses volumes de production tout en réduisant le personnel parce qu'ils ont adapté les ateliers à un nouveau fonctionnement. Les arguments qui sont le plus avancés par Nestlé pour justifier la fermeture du site, c'est un problème de surcapacité. C'est-à-dire qu'on a un outil de production qui serait sous-utilisé actuellement. Et il faut savoir qu'il est sous-utilisé parce qu'on nous a tout simplement levé des volumes de production. Là, on peut parler de problème de rentabilité, mais parce qu'on n'utilise pas à fond les possibilités de production.
Voilà, ça c'est Patrick Candela de la CGT, on l'a rencontré déjà hier avec Olivia, il nous a fait une vraie sociologie de son entreprise dans laquelle il travaille depuis 22 ans, il est rentré en 1982, donc il connaît bien, il nous a donné des explications très lumineuses hier, et là, il nous explique les raisons de la direction de Nestlé de fermer cette entreprise. Ça veut dire que Patrick, ouvrier de Nestlé, a dû apprendre tout ce langage. Hein, c'est pas l'entreprise qui apprend son langage, c'est lui qui apprend avec d'autres de ses camarades dans son syndicat à le langage, la stratégie, les objectifs, la logique de son entreprise qui aujourd'hui jette tout le monde au nom de la stratégie.
Nestlé s'imaginait qu'on allait tout casser et qu'on allait occuper l'usine, arrêter les productions, sachant très bien que c'est une stratégie qui nous aurait très vite épuisé et mis les salariés en difficulté. On a décidé de mener une action beaucoup plus je dirais intelligente, qui consiste d'abord à faire continuer l'usine dans le domaine des productions, pour pas nous mettre en situation, pas nous mettre le garrot, quoi. Hein. On veut laisser cette responsabilité à Nestlé. C'est Nestlé qui veut fermer l'usine, c'est pas les salariés de l'usine qui veulent la fermer. La stratégie de la terre brûlée, de la casse, les méthodes de voyous, ce sont les méthodes de Nestlé, ce sont pas les méthodes des salariés. On s'est pas engagé dans une stratégie suicidaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser Nestlé tranquille, on ne les laissera pas tranquilles. Nestlé veut faire vite, donc nous on n'a pas intérêt à que ça aille vite. On est dans une situation de condamné à mort qui ne sait pas, on est condamné mais on ne sait pas quelle sera l'heure. Nous on ne veut pas être condamné à mort et on est en sursis, on fera tout pour pas être condamné par Nestlé et on se bat. On ne peut pas fermer une usine qui a 50 ans d'existence et qui est rentable. Comment ferme un livre, c'est pas possible. Il y a d'autres choix, il y a d'autres possibilités. Je veux dire, ce qui compte avant tout, c'est pas les dividendes et l'augmentation du profit de Nestlé qui en a suffisamment comme ça. Ce qui compte avant nous, c'est que les enfants de José aient une vie paisible, que les enfants de Roger aient une vie tranquille, que les collègues de travail puissent continuer tout simplement de vivre. On veut vivre. Si l'être humain, si les valeurs humaines ne valent plus rien par rapport aux valeurs boursières, je veux dire, l'affaire de l'usine de Nestlé Marseille, comme de nos camarades de Lustucru, ou comme nos camarades de Perrier à Vergès, je veux dire, c'est quand même un enjeu de société considérable, quoi.
Les tables rondes, les tables rondes, les tables rondes, les tables rondes.
Et voilà, nous voilà au cœur du problème, nous voilà au cœur de la question. S'il s'agit d'enjeux de société, on pourra essayer de comprendre toutes les stratégies entrepreneuriales et les obligations et la concurrence et les critères de convergence, etc. Il restera que c'est bel et bien un enjeu de société, et c'est bel et bien un choix. Un choix entre une société humaine et une société anonyme. Anonyme, pas tout à fait, parce que l'entreprise Nestlé, le siège de l'entreprise Nestlé nous a appelé ce matin en disant quand même que Nestlé puisse s'exprimer. Nestlé, c'est-à-dire un des porte-paroles du siège de Nestlé à Paris. C'est le cas, nous avons appelé Monsieur Éric Boulet, porte-parole de Nestlé France. Éric Boulet, bonjour. Rappelez-nous les raisons de la fermeture de l'usine de Saint-Menet.
Il y avait deux raisons principales qui nous ont contraints à ce projet de fermeture. D'une part, c'est que nous avons une capacité de production qui est largement excédentaire en Europe, et d'autre part, des performances insuffisantes du site de Saint-Menet, notamment dû au faible taux d'utilisation des équipements par rapport à d'autres usines, dont celle de Dieppe en Normandie. Lorsque nous avons été mis en face de cette excédente capacité, nous avons étudié plusieurs scénarios, et malheureusement, le seul scénario qui soit viable est la fermeture de l'usine. Donc c'est une décision extrêmement grave et très lourde, mais pour les autres usines, c'était malheureusement la seule qui nous restait.
D'accord. Donc, vous avez annoncé ça au personnel au mois de mai dernier.
Oui.
C'est ça. Et donc, il y a 427.
427 personnes, effectivement.
Voilà.
Et dont nous sommes très conscients de l'impact que cela va avoir sur leur vie, sur leur travail, sur leur famille et sur l'environnement.
Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? À quoi vous vous engagez? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, selon vous?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, on ne va pas les laisser en route. Il y a, bien sûr, on va leur offrir à chacun, aux 427, un poste dans une autre usine de Nestlé, soit en France, soit à proximité immédiate, en Espagne, en Suisse ou en Italie. Mais nous savons, et c'est surtout vrai dans la région de Marseille, les gens n'aiment pas changer de région. Donc, nous avons pris l'engagement devant les salariés que nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver à chacun un poste dans la région, dans le bassin d'emploi. Donc cet engagement que nous avons pris publiquement devant eux, que nous avons pris devant les pouvoirs publics, nous allons nous donner les moyens de les tenir.
Alors, c'est-à-dire plus précisément, quel type d'emploi?
Alors, des emplois qui correspondent à leur qualification, parce que dedans, à Saint-Menet, il y a des personnels extrêmement qualifiés. Donc ceux qui sont experts dans le café, dans le chocolat, on va bien sûr leur offrir en priorité un poste dans une usine du même type pour qu'ils aient un poste équivalent. Et d'autres, nous allons travailler avec les pouvoirs publics, avec différents organismes pour réindustrialiser le site et créer de nouveaux emplois sur le site.
C'est-à-dire que si on vous écoute, personne ne se retrouvera à la rue.
C'est l'engagement de Nestlé. Il y a des pré-retraites qui vont être offertes aux personnes qui ont 55 ans et plus. Nous savons qu'entre 55 et 50 ans, il y a quelques cas que nous avons identifiés sur lesquels nous allons offrir un accompagnement spécifique. Nous allons offrir de la formation, nous avons prévu un budget important en formation pour que les personnes de Saint-Menet puissent saisir avec nous cette opportunité d'évoluer dans leur carrière, de retrouver un nouveau métier qui leur plaît.
Alors, en matière de reclassement, vous avez un projet aussi?
Alors, nous avons un reclassement interne et nous allons avoir des projets de reclassement externe. Mais pour l'instant, dans la phase de discussion avec les partenaires sociaux, il est encore prématuré de discuter sur ce projet-là.
D'accord. Donc, selon vous, personne ne se retrouvera au tapis, quoi.
Nous allons faire en sorte que personne ne se retrouve au tapis.
Eh bien, Monsieur Éric Boulet, je vous remercie.
Je vous en prie.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité. Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère.
Dégâts des eaux, voilà, c'est ce groupe Dégâts des eaux. On pourrait les appeler Dégâts des eaux et des forêts. Là où nous nous trouvons, c'est-à-dire dans la vallée de l'Uvonne, au-dessus de Marseille, où se démènent des représentants d'un groupement pour la défense de l'emploi dans la dite vallée. Et là-devant, sur le parking des magasins Casino, on rencontre Daniel Amiot, qui est un élu du PCF et qui distribue des tracts. Et qui nous explique qu'il n'y a pas que Nestlé qui ferme dans cette vallée et qui va nous préciser aussi sa version, qui va nous donner sa version de ce que risque d'être chez Nestlé les reclassements dont on vient de nous parler.
Cette tendance aux délocalisations, elle n'est pas seulement de la vallée de l'Uvonne. On peut dire qu'aujourd'hui, en France, il y a une espèce de fuite en avant de certains groupes industriels, qu'ils soient de l'agroalimentaire, mais aussi dans la métallurgie, qui décident, pour gagner encore plus d'argent, de partir à l'étranger, et notamment dans les pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Nestlé n'est pas un cas unique, bien entendu, mais en même temps, on sait que dans la vallée de l'Uvonne, il y a aussi des stratégies nationales d'autres groupes, comme Panzani et Total Fina, par exemple, qui a décidé de vendre sa filière chimie. Et on sait ce que ça veut dire. Souvent, lorsque la filière est vendue, on ne sait pas qui l'achète. Et si c'est un fonds de pension qui rachète ça ou un fonds d'investissement, on peut se retrouver dans les 2 ou 3 ans avec une entreprise qui est délocalisée.
Si plan social il y a demain chez Nestlé, on peut vraiment croire à un reclassement régional d'une bonne partie des salariés ou c'est statistiquement impensable?
Pour nous, lorsque Nestlé avance le fait qu'il reclasserait toutes les personnes, pour nous, déjà, on dit que c'est un mensonge, puisque dans la région, on se demande à quel endroit il va les replacer, si ce n'est de l'autre bout de la, dans l'autre bout de la France. Et encore, il faut savoir quand même que Nestlé envisage pour 7 de ses sites soit de délocaliser, soit de dégraisser en termes d'effectifs. Donc on a du mal à comprendre comment Nestlé pourrait reclasser ses personnels dans ses entreprises. Ensuite, sur la région. Sur la région, le reclassement est toujours possible, mais on voit le type d'emploi qui se crée, notamment dans la vallée du Vaud. Les derniers emplois créés sont des emplois de service, sont des emplois dans ce type de centres commerciaux, des emplois à mi-temps, précaires, à des salaires beaucoup inférieurs. Voilà. Donc c'est pourquoi nous défendons l'emploi industriel, parce que c'est un emploi qui a à statut, avec un salaire plus élevé que la moyenne, et en même temps, ça génère d'autres emplois. C'est générateur de On dit pour un emploi industriel, on génère environ 4 autres emplois. Dans le commerce, c'est pas tout à fait pareil. Et surtout avec le niveau de salaire et des conditions de travail, voilà. Donc, si Nestlé fermait, ce serait 426 emplois perdus, sans compter les emplois, puisqu'on estime environ 1000 emplois induits aujourd'hui. Voilà ce que ça représenterait pour la vallée du Vaud, pour Marseille et pour le département de l'Isère-Gironde. Voilà.
Quand ils se mettent dans la tête de fermer, hein, il n'y a rien à faire. Hein. Vous savez mieux que moi. C'est la vraie merde. Hein. Et moi j'habite ici, hein, c'est des copains aussi. J'y connais bien. Seulement je voulais faire, c'est la faute à l'État, ça. Hein. Ferme tout, ferme. Moi j'étais en mécanique. Ici à Marseille, on est tous au chômage. Hein. Moi je dis que tout ce que ça vient, c'est la faute à l'État. Hein.
C'est beaucoup la faute, la faute au patronat quand même. Parce que quand on voit le cas de Nestlé,
oui,
la multinationale fait 8 à 9%
oui,
de bénéfices.
Mais tout le monde fait et Danone. Et
Michelin, c'est pareil. Ils mettent des gens à la rue malgré
mais
tout.
Pourquoi, alors,
ça, il ne faut plus l'accepter.
Mais pourquoi l'État, alors, il ne confisque pas l'usine? Tu dis, on les fout dehors, ces gens-là.
C'est pour ça que on réclame une loi interdisant les licenciements dans toutes les entreprises qui font des bénéfices. Toutes les sociétés été coté au CAC 40, on fait plus de 50% de bénéfices.
Bien sûr. Moi, je vais voter Le Pen. Hein.
Vous croyez que lui, il va créer des emplois?
C'est à moi de changer de personne, on ne sait pas qui c'est. on a mis la gauche de 14 ans.
Oui, elle a
on
fait a la politique de la droite.
Voilà. Et maintenant, on a mis la droite. Qu'est-ce qu'il fait, la droite?
Sa politique. Elle fait la politique des patrons. Elle est là pour ça, on le sait.
Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont mettre? La gauche encore. On n'a pas d'autre. On n'a pas d'autre.
Mais enfin, bon...
C'est un monsieur de la LCR qui essaie de vous convaincre. Hein.
Non, de toute façon, moi, je ne me comprends pas. Hein. Moi, de toute façon... Voilà.
Voilà, scène ordinaire d'une fermeture, d'un plan social. Mais il y a les images, il y a la mémoire de tout ça. Aujourd'hui, ben, on fait ces images soi-même. On a une petite caméra, on a un petit matériel de montage. Et Olivia a fait le reportage du reportage avec Joël, qui est un délégué syndical. Il a 22 ans d'ancienneté chez Nestlé. Et il a fait ce film qui raconte ce qui s'est passé. Et il nous le montre. Oui, oui, absolument. Dans le poste.
On appelle ça la genèse. Donc c'est un film qui détaille pas, parce que lorsqu'on va le présenter, on voudrait ne pas dépasser la demi-heure, sinon on a de quoi faire 4 heures. C'est un film qui retrace toutes nos actions, donc le départ. Comment a été acceptée l'annonce du 12 mai? Comment avons-nous réagi jusqu'à ce jour? Donc un titre qui déroule le début. Le 7 mai 2004, la logistique signale les camions qui sortent de l'usine depuis le début de la semaine pour une destination inconnue. La logistique se met en grève pour bloquer le reste du stock. Le week-end, la direction refuse aux élus l'accès au magasin. À partir du lundi 10 mai, la direction et les cadres sont introuvables. Le 12 mai 2004, alors que le directeur reste enfermé dans son bureau, le secrétaire du CCE nous appelle pour nous dire que la fermeture de l'usine est envisagée.
Pour les 424 salariés de l'usine Nestlé de Saint-Menet à Marseille, la direction a annoncé son intention de fermer le site. Depuis lundi, le service expédition était en grève. C'est un nouveau coup de massue pour les salariés, car l'usine avait déjà connu un plan social en 2002. Annie Vergne-Nègre et Joe Lovette.
Depuis plus de 50 ans, le vent porte les odeurs mêlées de chocolat et de café jusqu'aux portes de Marseille. D'ici 6 mois à 1 an, Nestlé Saint-Menet sera fermé. Après plusieurs jours d'un silence pesant, la direction de l'usine l'a confirmé, sans donner les motivations de son choix. Ce n'est cependant un secret pour personne, l'usine n'est plus jugée rentable.
Donc là, c'est le 12 mai, nous sommes tous devant le bâtiment administratif. Le directeur a très peur. Et il nous charge, nous les élus, de sortir, de calmer les gens et de leur dire qu'il va venir s'expliquer.
Vous souhaitez tous entendre le directeur du site. Ce que l'on vous demande, c'est de rester calme, digne, respectueux des personnes, du matériel et des productions, car il faut dire à tout le monde, et tout le monde doit le savoir, qu'à Marseille, les voyous, ce ne sont pas les salariés de l'usine Nestlé, mais ce sont ceux qui l'ont dirigé, ce sont ceux qui ont pris les décisions politiques, c'est-à-dire Nestlé.
Et la claque, c'est quand on lui donne.
Lui, voilà, il est champion, hein, c'est pas lui.
Il n'y a qu'à venir, mais c'est lui qui nous fait monter la mayonnaise.
Hein. Il aurait été dans un peu mal.
Je vous confirme que la direction de Nestlé France a rendu sa gauche. Je vous confirme que la direction de Nestlé France a rencontré le secrétaire du comité central d'établissement avec pour ordre du jour le projet de cessation d'activité de l'usine de Saint-Menet et comme deuxième point,
proposition. Il n'a pas l'air fier là. Hein.
Il avait très très peur. Bon là, ça ne se voit pas à l'image, mais il était livide.
Les informations essentielles. À bientôt.
Ce sont les salariés de l'Usucru qui viennent nous soutenir. Le lendemain de l'annonce, je crois. Ça a fait très très chaud au cœur. Voilà, nous sommes allés à Arles soutenir à notre tour les copains du Sucru. Et c'est là, comme je disais, où on présente toutes nos actions, la chronologie des actions. Alors, c'est vrai, on peut pas tout mettre parce que c'était assez fort. Puis nous sommes des amateurs. Hein. Déjà, nous, quand on, à chaque fois qu'on regarde les images, et c'est pas la première fois, ça nous donne des frissons. Et c'est ça, on se la repasse de temps en temps pour se motiver. On a vécu...
C'était déjà pas terrible, mais là alors. Hein. C'est pour Alice et Sima, les voilà. Je suis
les mots sont durs, mais c'est le ressenti.
On n'a plus des paroles aussi vives aujourd'hui. On est moins dans la phase de la colère que un peu de l'attente, de l'expectative, de l'abattement aussi aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'on doit constater que les gens. Ils ne sont pas abattus, mais ils sont dans une phase de spectateur. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu tout à bouger. Au niveau juridique, c'est un dossier assez complexe. Et puis, il y a les mauvais coups quand même de la direction. Il y a les mauvais coups, c'est-à-dire les mensonges qu'elle fait colporter dans les ateliers. Si vous faites ça, vous n'aurez rien du tout. Il y a toujours, on doit toujours avoir une réponse rapide à tout ce qui se dit de faux dans l'usine.
On va pas tout visionner, mais on sent bien qu'après la phase du choc, on est dans la phase de la riposte, c'est ça ?
Oui, 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 c'est ça. On a...
Et là, l'histoire est pas terminée, surtout.
Ah non, c'est pas terminé. Loin de là.
Toujours dans votre ordinateur, il y a une musique que vous avez trouvée qui illustre assez bien le reportage ou ces derniers mois de combat. C'était quoi ? On peut l'écouter, le début ?
Ce truc-là, donc, Respire de Mickey 3D, je la trouve pas mal. Les paroles sont bien.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses grands souliers. Les coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Les routes de sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mots, mon histoire était pliée.
Parole colle bien la situation.
Ah oui, oui. Que vont dire nos enfants si on laisse faire? Que vont-ils nous dire? Je pense pas qu'ils nous diront merci.
Quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient.
Double jeu, signé Nestlé.
Signé Nestlé.
Quand une société ou un secteur entier passe sous le contrôle des financiers, il est mort. Parce qu'ils vont faire de la finance. C'est-à-dire qu'ils vont, eh bien, ils vont fermer une usine même si elle est rentable. Ils vont fermer une usine parce que, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter des titres que d'acheter des machines. Leur vraie peur n'est pas que le système s'arrête, ils sont convaincus que le système va monter au ciel, que l'écrasement des uns par les autres va continuer de façon illimitée et exponentielle. Bon, folie ou pas humaine ou pas folie humaine, mais leur problème, c'est de le faire secrètement. Dès lors que c'est public, ils peuvent plus. Le jour où les gens font la relation directe entre leur situation précaire et la finance internationale, ce jour-là, la finance internationale ne fait plus le poids, n'est plus crédible.
Pourquoi on crée des usines ? On crée des usines pour aller voir un banquier avec une activité apparemment visible, avec, dans l'idée...
Que ça va pas être ça l'essentiel.
Avec dans l'idée de faire du produit financier. Une fois que le produit financier marche bien, on sacrifie l'ouvrier. L'ouvrier est utilisé.
Et ben voilà, merci à tous, merci à Joël, à Patrick, à Raphaël, à Ange, Muriel, Roger et autres copains de Saint-Ménet. Merci à Daniel Amiot et à Eric Boulet de Nestlé. Merci à tous, c'était un reportage d'Olivia Gesbert, très important et très intéressant, un tout petit livre, édité par Attaque Suisse et préfacé par Suzanne George, Attaque contre l'Empire Nestlé. Voilà, et à la demande générale d'une auditrice, on va retrouver Manu Théron. Oui, Manu Théron, la playlist de Là-bas si j'y suis d'aujourd'hui. Manu Théron sur un texte de Victor Gélu, et ça s'appelle Chinana quelque chose.
Et hier à se passe à la réforme, à Vienne des Grèmes Pernatuda, qu'à des siestes bastidines les formes, à se tirer à traite et siestes sourdes, les couches bien et sur l'ouest et terre, fin son travail per la tuallier, il va se garnir sa bouche allier, mon bel année ou va à la guerre. Paga l'imposte de ma misère. Tien qu'est la lei, affuselei, que creste mai tant de famille. La boulissie est nueste buen rei, si suivie pu dédié marcio. Est-ce pas la lei, est une aurore, est une décret de la terreur. Est-ce le couteau de la tripière au coin des Au bout de vous, j'en des mariages, ton père est moule et malaisant, c'est tout féline d'au plus basiage, c'est une ambielle d'une loussa. Aïe, ils ont un père privilège, tout n'est n'a, nous galop ou n'té, mais lui est cadet, tu m'en soustentis, et nous prenons avec aux hommes. Mine et moi, signe, ça ouvre le pied. Dien qu'est-ce la lei, affuselei, que creste mai tant de famille. La boulissie, nueste buen rei, si suivie plus de dimarcio. Est-ce pas la lei, est une aurore? Est-ce une décret de la terreur? Est-ce le côté de la tripière au coin des mers?
Manu Théron dans la basse, j'y suis. J'avais oublié d'indiquer les techniciens d'aujourd'hui, c'est Bénédicte Roy et Jean-Philippe Jeanne. Les de la basse, si j'y suis, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Pascariello et c'est Christophe Imbert pour le répondeur. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.